10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour et bienvenue Jean-Yves Le Drian. L'actualité hors de nos frontières donne le tournis. Le monde est entré dans une phase d'ébullition où se mêlent en fait les effets des révolutions technologiques, sociales, politiques qui mettent les gouvernements sous pression et qui inquiètent les peuples. Chaque jour, nous pouvons voir sous nos yeux les mutations de ce monde nouveau, qu'il s'agisse des tensions au Moyen-Orient, au Proche-Orient, du choc entre Chinois et Américains, du chaos qui menace en Algérie et en Tunisie et autour d'un bassin méditerranéen où le drame des migrants ne s'arrête pas. Entre le G7 et l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre, entre des discussions hier avec des hauts responsables américains et des rencontres cruciales à Moscou demain, aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, vous êtes au grand rendez-vous européen avec CNews et Les Échos. C'est dire si votre parole est attendue pour nous dire si les effluves du succès scénographique du G7 de Biarritz se sont évaporées ou pas, et surtout nous expliquer en quoi chaque secousse sur la planète a son onde de choc dans nos vies quotidiennes. Lors de la crise des Gilets jaunes également, vous avez demandé un nouveau pacte national, c'était en hiver. Vous nous direz si la nouvelle méthode du gouvernement a tiré les leçons et où est passé ce fameux pôle social-démocrate qui pourrait peut-être s'appeler l'Arlésienne. Vous êtes encore une fois dans les sondages désigné comme étant le ministre le plus populaire du gouvernement. On sait que vous préférez le savoir-faire au faire savoir. Mais ce matin, on a beaucoup de questions, à commencer par Damien Fleurot qui ouvre ce grand rendez-vous.
Bonjour Jean-Yves Le Drian. On a beaucoup parlé du Brésil lors de cette réunion du G7 à Biarritz. On en reparle encore ces jours derniers. Les relations entre nos deux pays qui ne se réchauffent toujours pas avec, une nouvelle fois, Brigitte Macron insultée par un ministre brésilien, celui des Finances. Votre réaction ?
Ma réaction personnelle, c'est qu'on ne gère pas les relations internationales pour quelques pays que ce soit en organisant des concours d'insultes. C'est ce qui se passe. Et la manière dont tel ou tel haut responsable brésilien, ministre en plus, traite Mme Macron est indigne. Mais elle est indigne pour Mme Macron. Elle est indigne pour la France, mais elle est indigne aussi pour les femmes, à commencer par les femmes brésiliennes, qui elles-mêmes protestent contre ce type de déclaration. Mais le Brésil, ce n'est pas que cela. Heureusement, j'ai effectué un déplacement il y a quelques semaines dans ce grand et beau pays, où la France est très présente.
Et vous n'aviez pas rencontré le président brésilien, d'ailleurs.
J'avais rencontré mon collègue Arrojo pendant un long moment. Nous avions évoqué ensemble beaucoup de sujets, y compris les sujets environnementaux, y compris nous avions décidé de mettre en place une commission mixte entre le Brésil et la France sur les enjeux environnementaux. Donc je ne confonds pas les dirigeants actuels du Brésil avec ce qui est la réalité du Brésil, mais je constate malheureusement le maintien de propos agressifs, des invectifs qui ne sont pas acceptables.
On sursaute en vous entendant parler parce que vous dites que c'est votre réaction personnelle. Ce n'est pas une réaction de la France, il n'y a pas de
Je suis ministre des Affaires étrangères, donc les deux se mélangent. Mais c'est ma réaction d'homme aussi, parce que quand vous constatez ce type d'insulte, vous réagissez humainement.
Et Jean-Yves Le Drian, quand le Premier ministre reçoit hier à Bordeaux le chef indien Raoni, premier opposant au président brésilien, ce n'est pas aussi de la provocation ?
Le président de la République avait aussi reçu M. Raoni et le président de la République précédent aussi. Donc il y a là une habitude de relation sur laquelle d'ailleurs j'ai été amené à m'expliquer lorsque je suis allé au Brésil. Donc ce n'est pas une nouveauté, même si aujourd'hui ça prend une dimension singulière en raison de la situation en Amazonie. Mais je vous dis, pour le Brésil, nous sommes disposés à une collaboration qui existe déjà. Beaucoup d'entreprises françaises sont présentes dans ce pays. Il y a des écoles françaises, des lycées français, bref, des Brésils qui aiment la France, au-delà des propos vindicatifs qu'on a pu entendre.
Et sur le fond, si on a un mot sur ce qui se passe effectivement avec les incendies qui continuent, des pompiers français vont en Bolivie pour également participer au secours. Est-ce qu'il faut, selon vous, créer un droit d'ingérence environnementale et climatique lorsque ce genre de catastrophe maintenant arrive ?
Mais sur le fond, d'abord, la France, en particulier au moment du G7, a pris les initiatives nécessaires pour répondre à l'urgence. Vous avez évoqué le fait que hier, une quarantaine de sapeurs sont partis en Bolivie, du matériel, des drones, pour contribuer à lutter contre les incendies. Et puis, il y a par ailleurs l'enjeu amazonien, qui n'est pas uniquement un enjeu brésilien, qui est partagé par 8 pays, dont la France, puisque la Guyane est amazonienne, enjeu sur lequel La France, parce qu'elle préside le G7, a pris des initiatives au moment du sommet de Biarritz pour que, au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc dans quelques jours, puisse se constituer ce que nous appelons pour l'instant l'Alliance pour l'Amazonie, qui regrouperait à la fois les pays concernés, les États souverains d'Amazonie, mais aussi tous les acteurs qui veulent bien contribuer à faire en sorte qu'il y ait une reforestation, qu'il y ait
des
pratiques nouvelles.
Faut faire évoluer.
Alors, ce n'est pas le droit d'ingérence, parce que ça existe déjà. Il faut rappeler les choses telles qu'elles sont. Il y a eu un accord à Paris pour lutter contre le changement climatique. Parce que en ce qui concerne les biens communs, il faut que la communauté internationale se mette d'accord sur des principes, sur des engagements. Et dans les accords de Paris, il y a eu des engagements qui ont été pris.
Mais il ne marche pas cet accord de Paris.
Je vais jusqu'au bout. Il y a des engagements qui ont été pris et qui vont être renouvelés, nous l'espérons, lors de la réunion sur le climat, ce qu'on appelle la COP, qui va se tenir au Chili dans quelques jours, au mois de décembre. Et ces engagements concernent aussi le Brésil, puisque le Brésil a validé l'accord de Paris, il l'a ratifié, et il s'est engagé à agir pour la reforestation de l'Amazonie, pour la préservation de l'Amazonie. Donc les autres pays du monde sont en droit de se dire, bon, est-ce que chacun respecte ce qu'il a dit qu'il allait faire ? Aujourd'hui, pour le Brésil, on constate que c'est incertain, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il importe que lorsque nous allons nous retrouver au Chili, on puisse mettre sur la table l'ensemble de ces enjeux et voir comment chacun lutte contre le réchauffement climatique, à commencer par les pays d'Amazonie. Et on en parlera lors de l'Alliance.
De vous réinviter à ce moment-là lorsqu'on rentrerait du Chili. À Biarritz, ce n'était pas l'été indien, c'était l'été iranien, durant le G7. Avant que l'on en parle, on va écouter cet extrait de ce documentaire dans les coulisses réalisé par les équipes de CNews dans les coulisses du G7.
Après cette rencontre, en fait, avec le ministre Zarif, je rentre, j'ai un nouvel échange avec le président Trump, en tête à tête, à notre hôtel. Ça crée un arc électrique, si je puis dire, autour du sommet, et ça met tout le monde dans la situation d'essayer de retrouver un accord.
Ce sera diffusé à 11h30 sur CNews. Nicolas Barré.
Alors, on le voit, l'Iran s'éloigne de plus en plus de cet accord, justement, de cet accord de 2015. Téhéran a annoncé hier la mise en service de 40 centrifugeuses avancées qui vont pouvoir permettre de produire de l'uranium enrichi, ce qui est complètement contraire à l'accord de 2015. En clair, l'Iran s'assoit sur cet accord. Est-ce que ce n'est pas un pied de nez vis-à-vis des Européens et de la France en particulier ?
Les premiers à s'être assis sur l'accord, ce sont les États-Unis. Il faut rappeler l'histoire. Les accords de Vienne ont été signés par un certain nombre de pays, dont les États-Unis, qui ont estimé ne plus être engagés par cet accord et donc ont retiré leur signature. Non seulement cela, mais ils ont aussi mis en œuvre des mesures de sanctions. Ils ont remis en place les sanctions, avec un élargissement des sanctions, ce qu'on appelle les sanctions extraterritoriales, qui font que tout acteur qui fait des actes commerciaux avec l'Iran est susceptible d'être pénalisé dans ses relations avec les États-Unis, si bien que tout le monde hésite.
Vous comprenez l'attitude de Téhéran ?
L'Iran, non, je vais revenir sur Téhéran, je rappelle l'histoire. Si bien que l'Iran était en panne de retour des avantages qu'il aurait pu retirer de la signature de cet accord. Ensuite, l'Iran apporte de mauvaises réponses à une mauvaise décision, qui est celle des Américains. Mauvaise réponse parce que le fait d'essayer de se désengager, de poser des actes de désengagement de l'accord qu'on appelle le JCPOA, disons l'accord de Vienne, induit une escalade et ne met pas en place les dispositions nécessaires pour que l'on puisse trouver des accords.
Mais
les voies de dialogue sont toujours ouvertes.
Justement.
Y compris aujourd'hui. Mais il faut que l'Iran renonce à ce type d'action qui entrave le processus de désescalade que nous voulons mettre en place. Mais nous continuons notre action pour permettre à ce qu'il y ait une plus grande sérénité dans la région.
Est-ce qu'il y a encore une capacité justement à négocier quelque chose ? Est-ce que cette médiation française va déboucher sur un résultat concret, une rencontre Trump-Rouhani à New York par exemple ? C'est l'objectif de la France ?
Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. La chorégraphie, c'est-à-dire la rencontre d'un tel avec un tel, du président Rouhani avec le président Trump, la chorégraphie, c'est à la fin de l'histoire. On essaye de mettre sur la table l'ensemble des enjeux qui sont très simples. Comment est-ce que l'on fait pour que l'Iran revienne dans l'accord de Vienne ? quels sont les avantages financiers potentiels que l'Iran peut trouver dans cette opportunité. Et puis, comment est-ce que l'on fait pour que l'Iran s'assoie à la table des discussions pour parler du reste, c'est-à-dire ce qui se passera après 2025, c'est-à-dire à la fin de l'accord de Vienne, et comment est-ce que l'on peut éviter les déstabilisations dans la région. Voilà quel est l'agenda potentiel sur un sujet très grave. Parce que si l'Iran accède à l'arme nucléaire, alors c'est toute la région qui a un risque de guerre. Nous sommes dans une situation de conflictualité potentielle très inquiétante.
Ils sont à combien de mois de l'arme nucléaire, là ?
Ils sont à plusieurs mois encore. Et les actes qui ont été posés sont des actes négatifs, mais ils ne sont pas définitifs, je l'espère. On peut revenir en arrière relativement facilement. Encore faut-il que les voies du dialogue puissent revenir.
Effectivement, vous l'avez souligné, c'est à cause d'Américains que ça a commencé. Mais on a vu la France s'installe dans ce rôle de médiation. Le président de la République l'a qualifié lui-même. France, puissance médiatrice, ça vous convient comme terme ?
La nouveauté, pour faire référence à l'image que nous avons vue, c'est que à Biarritz, le président Trump a fait des ouvertures au président Macron. Appeler le président Macron président d'une puissance médiatrice ou d'une puissance d'équilibre, comme je préfère, en tout cas, l'acte a été posé.
Vous préférez ce terme, vous, parce que
l'acte a été posé, et c'est à partir du moment où cet acte a été posé le samedi midi, que le président Macron a souhaité que l'on puisse avoir des discussions assez ouvertes avec le ministre Zarif, qui est venu spécialement de Téhéran pour en parler, en particulier avec moi, mais aussi avec le président de la République.
La diplomatie,
donc,
c'est...
Il y a eu une désescalade, une baisse de tension. Et la France a joué son rôle de facilitatrice de paix.
D'accord.
Et on ne peut jouer ce rôle de facilitateur de paix que si on est une puissance. Parce qu'autrement, bon, vous pouvez être un petit pays en essayant d'articuler les volontés des uns et des autres. Certains le font d'ailleurs très bien. Mais dans ces enjeux-là, qui sont cruciaux pour la paix dans le monde, qui sont cruciaux pour la paix dans cette région, il faut qu'une puissance forte comme la France puisse jouer ce rôle. Elle le joue.
La diplomatie, c'est évidemment le rôle des mots. Vous préférez puissance d'équilibre à médiatrice? Pourquoi? Parce que c'est trop passif?
Je veux bien les deux. Mais une puissance ne peut être médiatrice que si elle est en même temps une puissance d'équilibre. Alors disons les deux.
On se retrouve pour cette fois-ci parler de votre déplacement crucial dès ce soir à Moscou.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et surtout avec Jean-Yves Le Drian, donc avec lequel on passe en revue tous les enjeux internationaux. Après l'Iran, cette fois-ci, la Russie. Vous partez donc dès ce soir pour donc Moscou. Première rencontre depuis 2014 avec votre homologue, Nicolas Barré.
Et vous y serez avec Florence Parly, la ministre de la Défense. Vous rencontrez vos homologues. Quel est l'objectif de ce rapprochement, de cette nouvelle politique française vis-à-vis de la Russie, qui suscite d'ailleurs un peu d'interrogation chez certains de nos partenaires européens?
Bon, d'abord, les relations avec la Russie, entre la France et la Russie, mais aussi entre l'Europe et la Russie, n'ont jamais été aussi basses depuis la fin de la guerre froide. Alors, il y a des raisons à cela. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes en désaccord profond, que ce soit la question ukrainienne, que ce soit les questions d'ingérence, que ce soit la question syrienne, que ce soit l'utilisation de l'arme chimique. Bref, il y a une accumulation de... plus que des irritants,
ouais.
d'opposition, de tension qui existent. Et puis, parallèlement à ça, constatons que le statu quo de défiance dans lequel nous sommes installés ne sert personne, n'aboutit à rien. Il y a toujours les conflits gelés, il y a toujours des blocages, il y a toujours une incompréhension aux Nations Unies. Et donc, le président de la République a souhaité que l'on puisse essayer d'envisager de passer d'une défiance un peu absolue à des éléments de confiance. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec Florence Parly à Moscou demain. Non pas que nous ne le voyons pas, je rencontre mon collègue Lavrov régulièrement, mais on n'avance pas. Et donc essayons, dans cette configuration, d'aborder ensemble les sujets sur lesquels on peut aboutir progressivement à des éléments de confiance. On sait que ça sera long, nous allons là-bas sans naïveté, on connaît nos désaccords, mais peut-être pouvons-nous embrayer sur un certain nombre d'accords. La lutte contre le terrorisme, la collaboration dans le spatial, le renforcement de la relation économique, le renforcement des relations entre les sociétés civiles, l'appréciation des crises ensemble, tout cela peut faire partie d'une nouvelle donne. Parce que sinon, si on ne bouge pas, et c'est le sentiment profond du président de la République, alors on pousse l'Europe, la Russie vers l'Est. Et alors que cette Russie est européenne, elle a une histoire, une géographie, une culture européenne, et progressivement, devant ce blocage,
alors, vous avez inscrit, oui,
la Russie va vers la Chine.
Jean-Yves Le Drian, vous avez
comment
inscrit,
peut-on l'éviter?
Vous avez inscrit votre action et celle du président de la République dans le temps long, mais il y a aussi les urgences, il y a l'Ukraine,
oui,
il y a l'urgence de faire repartir donc, ces discussions. On voit les échanges, l'échange hier de prisonniers donc, entre la Russie et l'Ukraine atteste aussi peut-être d'un réchauffement. Est-ce que vous allez vous saisir de ce moment-là pour faire revivre ce fameux sommet format de Normandie, comme on dit, qui réunit les pays importants, dont la France, autour de cette crise?
Je pense qu'il y a une opportunité, il y a une porte entrouverte pour commencer à avancer sur le règlement de ce conflit. D'abord parce que le nouveau président ukrainien Zelensky a posé des gestes en démilitarisant une partie dans le Donbass, une partie de ses forces. Ensuite, en permettant qu'il y ait un échange de prisonniers. Il y a eu échange de prisonniers, c'est une bonne nouvelle, y compris M. Oleg Sentsov, qui était emprisonné depuis déjà très longtemps, y compris les marins du détroit de Kerch, qui avaient été emprisonnés il y a maintenant quelques mois. Bref, il y a là une ouverture. Est-ce que cette ouverture peut se poursuivre? Nous le souhaitons, et il faudrait à ce moment-là que la Russie réponde à l'Ukraine par des actions de déminage et de désarmement d'armes lourdes dans les secteurs concernés, et que parallèlement, l'Ukraine engage les réformes institutionnelles qui sont prévues dans les accords de Minsk, parce que pour l'instant, on était bloqué, là aussi, statu quo, on était bloqué dans la possibilité d'avancer. Et peut-être demain, du coup, une réunion au plus haut niveau entre les chefs d'État et de gouvernement sur le règlement.
Avec
de
d'autres conséquences, Jean-Yves
Le Drian, on vous entend, on entend vos intentions et en parallèle, eh bien, l'Europe qui s'apprête à reconduire pour 6 mois des sanctions contre la Russie. Elles arrivent à échéance le 15 septembre prochain. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères parle de processus avec un disque rayé. Est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec ce que vous dites?
Pas du tout. Nous n'allons pas à Moscou demain pour lever les sanctions. On sait pourquoi les sanctions ont été posées. Elles ont été posées après l'annexion de la Crimée et en raison des actions menées par la Russie dans une partie de l'Ukraine, essentiellement dans le Donbass.
Des sanctions
tant
que
le processus ne sera pas engagé, les sanctions resteront là.
Quel geste faut-il pour que justement ces sanctions, qui affectent beaucoup le système économique français, hein, dans l'agroalimentaire, les agriculteurs, dans le monde effectivement aussi de la finance. Qu'est-ce qu'il faut comme geste pour que ça se
Le processus lève de Minsk, en format Normandie pour sa mise en œuvre, doit avancer pour permettre une stabilisation en Ukraine. Et alors, progressivement, les sanctions pourraient être révisées. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. On est simplement en échange de prisonniers. Oui, mais un échange de prisonniers, ça n'avait pas eu lieu depuis longtemps. Donc, je considère que c'est un signe positif d'une bonne évolution. Encore faut-il qu'il y en ait d'autres.
Cette inflexion de la politique de la France à l'égard de la Russie suscite des interrogations, y compris, semble-t-il, au sein même de l'administration. Le président de la République a fait état de façon un peu surprenante d'un état profond serait un peu en résistance par rapport à cette nouvelle ligne. Comment est-ce qu'il faut le comprendre?
Moi, je ne
vous avez
le sens
des
pas,
fonctionnaires ou des ambassadeurs qui ne sont pas tout à fait en ligne avec
le président
avec
de la République dit souvent... S'adressant à tel ou tel ministre, il faut que l'état profond de votre administration comprenne bien la ligne et l'orientation que je veux donner au pays, qu'il se mobilise. Il a dit aux diplomates, il le dit ailleurs. Ouais. Il faut que l'ensemble de le fonctionnement du Quai d'Orsay puisse se mobiliser.
Oui, mais c'est plus spécifique sur la Russie quand même.
C'est ça qu'il veut dire.
Il a évoqué face aux journalistes la presse présidentielle. C'est plus spécifique sur la Russie.
Je sens au contraire dans cette initiative beaucoup d'intérêt, beaucoup de mobilisation de la part des diplomates.
Sur le Brexit, la date limite, hein, on s'en rapproche, le 31 octobre. Elle avait été fixée d'ailleurs, voulue par Emmanuel Macron lors d'un Conseil européen. Or, le Parlement britannique et la Chambre des Lords ont voté une loi imposant un report du Brexit après le 31 octobre en cas de no deal. Est-ce que la France est prête, oui ou non, eh bien, à accepter ce report?
La situation en Grande-Bretagne est quand même très perturbante. Parce qu'en fait, sur le fond, sinon on ne suit pas les évolutions depuis 3 ans, il y a une espèce de conflit de légitimité entre le peuple qui, par la voie du référendum, il y a 3 ans, a dit « je veux sortir ». Ce n'était pas notre position, nous regrettons cette position, mais le peuple britannique s'est exprimé. Et puis le Parlement, expression du peuple aussi, qui ne sait pas comment sortir et qui, pendant 3 ans, essaye de voir comment on peut faire respecter la décision du peuple britannique et ne trouve pas la manière de faire.
Et sur le calendrier.
Donc, et sur le calendrier non plus, parce qu'il n'y a aujourd'hui au Parlement britannique de majorité pour rien. Il n'y a pas de majorité pour l'accord de retrait, il n'y a pas de majorité pour aller aux élections, il n'y a pas de majorité pour le no deal.
Mais il y a un Premier ministre qui s'appelle Boris Johnson.
Il n'y a pas de majorité pour rien. Et donc, il y a une impasse.
Qu'est-ce qu'il peut faire, Boris Johnson? Qu'est-ce qu'il vous demande de faire?
Il faut lui demander. Il y a une impasse et il faut que les Britanniques nous disent ce qu'ils veulent. On ne va pas aller se substituer aux Britanniques. C'est aux Britanniques de nous dire, voilà ce que nous voulons. Nous ne souhaitions pas qu'ils sortent de l'Union européenne. Ils ont décidé de le faire. Dites-nous, chers amis britanniques, comment vous voulez faire pour qu'on puisse vous aider à le faire? Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, puisqu'il n'y a pas de majorité sur aucune des options.
Donc c'est
une impasse. Il y a aujourd'hui une impasse qui se traduit d'ailleurs par des risques qui concernent le Royaume-Uni, puisque l'Écosse agite l'éventualité d'une indépendance à cet égard.
Mais si
donc que les Britanniques assument leur situation.
Mais s'ils nous disent qu'ils veulent reporter la date du 31 octobre, qu'est-ce qu'on leur répond?
Dans l'état actuel des choses, c'est non. Puisqu'ils disent qu'ils veulent proposer d'autres solutions alternatives, des arrangements alternatifs pour assurer le retrait et assurer le no deal, nous ne les avons pas vus, donc c'est non. On ne va pas recommencer tous les trois mois. Que le Parlement britannique, que les autorités britanniques nous disent le chemin.
C'est effectivement un dossier qu'on suivra jour après jour. On se retrouve pour continuer à explorer les dossiers effectivement sensibles. Vous avez évoqué le chaos du côté d'Outre-Manche. Ça continue aussi du côté de la Méditerranée.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et toujours avec Jean-Yves Le Drian, donc le patron de la diplomatie française. Effectivement, on disait, il n'y a pas un sujet que l'on regarde qui ne soit pas urgent ou brûlant. Le 15 septembre, dans une semaine, donc, auront lieu les élections présidentielles en Tunisie. Elles se déroulent de manière assez particulière, puisque Nabil Karoui, le propriétaire d'une télévision privée, un des favoris des sondages, est en prison, accusé de fraude fiscale. Il reste quand même candidat et il mène campagne depuis sa cellule. Europe 1 a pu en exclusivité cette semaine interviewer son épouse. C'était jeudi dans la matinale de Mathieu Béliard. Écoutez cet extrait.
Écoutez, moi je fais appel à mon pays, je fais appel à ma justice, je fais appel aux hommes nobles et honorables de notre pays et je sais qu'ils vont être là, je sais qu'ils vont le faire. Bien évidemment, on a des relations d'amitié avec la France, mais moi franchement je fais appel à mon pays, je fais appel à ma justice.
Que dit la France face à cette situation particulière ?
La France constate que la transition démocratique s'effectue correctement en Tunisie.
Vous trouvez
c'est une jeune, je vais y venir, c'est une jeune démocratie, c'est une constitution récente, c'est le premier pays du printemps arabe, mais un printemps qui s'est poursuivi par la voie démocratique. La mort du président Essebsi a entraîné une accélération du calendrier, mais le processus se déroule. Respectons-le. Il est très honorable. Alors, il y a 26 candidats, M. Darmon. Je ne vais pas aller prendre position pour tel ou tel candidat.
Ça, c'est pas
la justice tunisienne est majeure et je la respecte. Et je n'ai pas d'autres commentaires.
C'est pas un peu un déni de démocratie quand même quand un candidat comme ça ne peut pas se présenter?
Il y a une justice en Tunisie que je respecte. Il y a une constitution en Tunisie que je respecte. Et ce que je souhaite, c'est que la transition démocratique se fasse le mieux possible.
D'une manière plus générale, la Tunisie, pour vous, est-elle un pays menacé par la situation post-Daesh, perte du califat? Est-ce qu'il faut craindre les agissements du voisin libyen?
Ah, c'est pas là, c'est plus directement le processus démocratique.
Nous élargissons le propos.
Nous souhaitons que le pouvoir tunisien soit bien affirmé et soutenu par l'ensemble de la population. C'est, je crois, ce qui va se passer. La difficulté de la proximité avec la Libye est réelle, puisqu'il y a en Libye de nouveau l'apparition de poches de Daesh dans le sud libyen et qu'il faut s'en prémunir. C'est un sujet plus vaste qui a été aussi abordé au moment du G7, où il a été convenu avec l'ensemble des membres du G7. Mais sur cette question, d'ailleurs, c'est un échange que nous pouvons avoir avec les Russes, pensant qu'il est urgent de faire en sorte qu'il y ait une conférence internationale sur la Libye avec l'ensemble des acteurs, à la fois les voisins, mais aussi tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont affaire avec la Libye. Ceux qui pourvoient certains groupes par des armes, ceux qui ont une proximité telle qu'ils peuvent agir, pour qu'enfin on trouve les voies d'une réponse politique à cette situation. Parce qu'il n'y aura pas en Libye de victoire militaire. Quelles que soient les intentions des uns et des autres. Au contraire, il peut y avoir un accroissement de conflictualité entre différents groupes armés qui, à ce moment-là, peuvent remettre en cause notre propre sécurité. Donc l'urgence, c'est de trouver les voies d'un cheminement politique en Libye. On les connaît, on sait le processus tel qu'il peut être. Encore faut-il qu'il y ait une détermination de l'ensemble des acteurs pour le faire.
Jean-Yves Le Drian, quelle voie politique pour un pays voisin? L'Algérie, 29e vendredi consécutif de manifestations sur place, une forte mobilisation toujours et un chaos politique mais aussi économique peut-être qui se profile. Votre commentaire sur la situation.
Il n'y a pas de chaos dans les rues. Il y a une population qui s'exprime très régulièrement depuis le mois de février, tous les vendredis. Et puis il y a une transition politique depuis le départ du président Bouteflika qui n'est pas simple parce que c'est un grand moment dans l'histoire de l'Algérie. Nous comptons sur l'essence de responsabilité des Algériens. Nous pensons que la voie du dialogue doit s'imposer pour trouver les solutions.
Les conséquences de la purge dans les clans industriels font que les entreprises s'arrêtent, que le chômage technique se répand partout.
Il est opportun que les Algériens prennent en considération l'ensemble de cette donne. Mais il faut qu'ils trouvent eux-mêmes les voies du dialogue. Ce n'est pas à la France d'aller dire aux Algériens comment il faut faire. Ils sont devant une étape importante de leur vie commune. Oui, bien sûr, nous sommes très attachés à l'Algérie. Et nous souhaitons que les voies du dialogue permettent une solution politique rapide.
Mais on voit bien aussi que les rentrées liées aux mannes pétrolières sont en train de baisser et ça fragilise considérablement le budget. Est-ce que vous ne craignez pas tout simplement un chaos dans ce pays aussi important? Et pour la région, et pour nous, pour la France.
Je trouve que pour l'instant, la maturité est au rendez-vous. La responsabilité est au rendez-vous et nous souhaitons que ça se poursuive en ce sens. Et nous sommes en appui de toutes les voies de dialogue qui peuvent avoir lieu pour permettre à l'Algérie d'avoir une nouvelle étape de sa vie politique qui soit forte et qui fasse honneur à l'Algérie.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme vient de rendre un rapport sur le Yémen. Il pointe le fait que les États qui vendent des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, et c'est le cas de la France, et là je cite, pourraient être tenus responsables de complicité de violation du droit international en raison des crimes de guerre qui sont commis là-bas. Alors, est-ce que ça pourrait vous amener à reconsidérer le fait de vendre des armes à l'Arabie Saoudite ?
Nous sommes extrêmement vigilants sur le type d'armes que nous fournissons à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Singulièrement depuis les opérations initiées par la coalition arabe au Yémen. Mais sur cette question, il faut voir l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les jours qui viennent de se passer, c'est l'Arabie Saoudite qui est victime de drones en provenance des outils qui attaquent l'Arabie Saoudite sur ses frontières, mais même sur ses aéroports. Donc il y a une situation impossible, insupportable au Yémen. Et là aussi, il n'y aura pas de solution militaire. Il faut mettre en œuvre les éléments d'une solution politique qui est très compliquée parce qu'au Yémen, vous avez à la fois les Houthis qui sont soutenus par l'Iran, mais vous avez aussi Al-Qaïda, mais vous avez aussi Daesh, mais vous avez aussi un gouvernement légitime qui ne peut plus siéger. Et vous avez aussi des acteurs qui veulent une scission du Yémen. Donc, on ne peut pas régler la question du Yémen uniquement à coup d'anathème. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça.
Que des crimes de guerre
soient faire la même chose.
Non, ils ont que l'Allemagne, à ma connaissance. Et l'Allemagne repousse régulièrement cette décision, mais la France assume ses responsabilités dans la région. Mais nous sommes extrêmement vigilants et même très parcimonieux sur la manière dont nous intervenons en soutien pour les livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite.
Damien Fleurot.
Mais nous ne voulons pas que dans cette partie du monde, on ne voit la crise yéménite que par un côté. Il faut l'avoir dans son ensemble. Et il faut trouver aujourd'hui les moyens de sortir de cette sale guerre. Les Saoudiens, les Émiriens ont leurs responsabilités à cet égard.
Jean-Yves Le Drian, que répondez-vous à l'avocat Henri Leclerc, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, qui vous demande d'en finir avec la politique du cas par cas concernant le rapatriement de ces enfants de djihadistes qui sont aujourd'hui toujours retenus en Irak. Le cas par cas, on en finit ou pas?
Rapatriement ou retour?
La logique que nous développons sur les combattants étrangers est bien connue. Maître Henri Leclerc le sait bien. Nous avons quatre principes. Premièrement, l'impunité. Je ne parle pas des enfants. Les combattants étrangers, mais ils peuvent être, ça peut être des combattantes aussi, doivent être jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Je ne rappelle pas ce que nous avons subi ici en France, mais c'est venu de là, de cette zone-là. Un. Deux, nous respectons les autorités irakiennes. Trois, il y a aujourd'hui une situation de guerre dans le nord-est syrien, où il y a des camps, et les camps, nous ne sommes pas présents. nous essayons de rapatrier autant que faire se peut, lorsqu'on a bien identifié les possibilités, des enfants isolés. Et, de manière exceptionnelle, lorsque la mère l'autorise, des enfants qui ont leur mère dans les camps. Et puis, quatre, il nous faut agir, réfléchir à la mise en œuvre d'un dispositif judiciaire particulier pour que demain on puisse juger les combattants étrangers qui sont là. Ce n'est pas uniquement un problème français.
Ça veut dire un tribunal en France ?
On travaille aujourd'hui avec plusieurs de nos collègues européens à la mise en œuvre d'un dispositif judiciaire qui permette de régler cette question.
Je n'en ai pas d'informations. Et qui dépasse une cour internationale
qui dépasse les frontières de la France.
C'est pas uniquement français.
Pour juger
qui
donc
pourrait
les,
permettre
les combattants
de juger
djihadistes.
Les combattants djihadistes. Mais nous sommes toujours en situation de guerre dans le nord-est syrien.
Donc vous annoncez qu'une instance aujourd'hui de
cour
européenne
de justice peut voir le jour. Nous sommes en train d'agir à la mise en œuvre d'un dispositif de ce type qui est la seule bonne solution, non seulement pour la question des enfants, mais aussi pour la question des combattants.
Effectivement, on reviendra beaucoup sur cette information. On a vu que effectivement, un nouveau gouvernement est arrivé en Italie. L'Italie va demander l'aide donc à l'Europe sur deux sujets, en particulier donc des souplesses sur le budget et puis également sur un accord sur les migrants, de façon à pouvoir éviter, on va dire, le retour de l'extrême droite au pouvoir. Est-ce que la France est prête à aider l'Italie et donc enterrer la brouille qu'il y avait eu à l'époque ?
Il y a un nouveau gouvernement en Italie, c'est la responsabilité des Italiens. Il apparaît aujourd'hui effectivement plus ouvert dans sa dimension européenne, plus déterminé à avoir avec la France des relations positives, plus ouvert aussi à la mise en œuvre de dispositifs migratoires partagés. Nous sommes prêts à en parler. J'ai écrit à mon nouveau collègue, M. Di Maio, pour lui faire part de ma bénévolence à cet égard. Bon, ça vient de se passer. J'espère que nous allons avoir avec l'Italie des relations plus constructives.
Vous avez des rendez-vous programmés, peut-être ?
J'espère que ça va venir.
Il vous a demandé des nouvelles des Gilets jaunes ?
Pas du tout.
Bon, la brouille est terminée, la page est tournée entre la France et l'Italie.
Il y a une nouvelle donne que chacun constate. De cela. Nous ne sommes plus là non plus dans l'invective et de la rotomontade. Nous sommes dans la volonté d'agir en commun au sein de l'Union européenne. La nomination de M. Gentiloni, qui est ancien Premier ministre au poste de commissaire européen pour l'Italie, est un bon signe.
C'est pour vous une réponse uniquement italienne ? Vous avez le sentiment que quelque part les régimes populistes reculent parfois, n'arrivent pas à faire leurs preuves lorsqu'ils arrivent au pouvoir ?
Il y a des moments où certains responsables politiques, on a pu le constater pour M. Salvini, se voient plus forts qu'ils ne le sont. Et ils font des erreurs. C'était le cas.
Louis Alliot, vice-président du RN, dit « il reviendra au pouvoir ».
Moi, je n'en suis pas certain. Quand on fait des erreurs lourdes comme cela, parfois, ça dure longtemps.
On se retrouve pour parler, justement, de politique intérieure.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Jean-Yves Le Drian, toujours avec nous. Lorsque vous parlez sur le sujet intérieur, en général, on sait que ça va être grave. Et que, quelque part, ça n'a pas laissé les gens indifférents. Cet hiver, vous aviez appelé, en pleine crise des Gilets jaunes, à la création, renouvellement d'un pacte national, de manière à recréer donc, le dialogue, suite à justement une situation qui ne vous satisfaisait pas. Est-ce que l'acte 2 du gouvernement aujourd'hui vous a entendu ?
Oui, moi je me sens très à l'aise dans l'acte 2. Le grand débat a permis un foisonnement d'expressions, je pense, a permis au président de la République de sentir le pays dans sa profondeur, a permis l'émergence de revendications, parfois contradictoires. Et tout cela a été repris dans le discours de politique générale du Premier ministre ouvrant l'acte 2, qui est une démarche différente, beaucoup plus horizontale, beaucoup plus attentive, beaucoup plus à la recherche du compromis sur des enjeux majeurs. Regardez la démarche sur les retraites se met en œuvre.
Moins ambitieuse peut-être aussi.
Pas automatiquement moins ambitieuse. Parce que je pense que on ne peut pas à la fois dire il faut plus de moins de verticalité et plus de rapidité. Tout cela, ce sont des mots. Il y a eu une première période de ce gouvernement, qui était une période extrêmement active, parce qu'il y avait un mandat du peuple qui était immédiat, il fallait
trop
débloquer,
active, vous diriez
peut-être indispensable, parce qu'il fallait débloquer des situations, et nous étions dans une logique suite à l'élection présidentielle qui nécessitait d'agir vite. Là, on peut mener les réformes envisagées avec la volonté de l'écoute, la volonté du compromis, la recherche de la justice sociale, la recherche de la justice territoriale et la concertation. Et je constate que les outils qui ont été mis en place pour cela sont positifs. Nous sommes dans une nouvelle phase, une phase que je trouve qui répond aux propos que j'avais tenus lors de la
Donc vous avez
déclaration
été,
que j'avais faite antérieurement.
Oui, mais je me sens
à l'aise, d'autant plus à l'aise que... Vous savez, moi, je suis un territorial, même si aujourd'hui, je suis beaucoup à l'international. Mais je sens ce réflexe territorial, surtout dans cette période. Et le fait que le président de la République ait souhaité qu'il y ait un acte 3 de la décentralisation, que je souhaitais depuis longtemps, qui va se mettre en œuvre, parce que Jacqueline Gourault est en train de mener les concertations nécessaires, qui intègre aussi, comme ce sera le cas dans la Constitution, la différenciation des territoires, qu'on ne fasse pas la même chose partout, ce n'est pas obligatoire. Tout cela, c'est le sens de l'écoute et peut-être les résultats du grand débat et de l'ensemble de l'itinérance qu'a fait le président de la République
pourtant,
dans le pays.
Tout n'est pas simple. Damien Fleurot.
Tout n'est pas simple. Vous dites « je suis un territorial », le sens de l'écoute. Vous l'avez dit, par exemple, à votre collègue du gouvernement, Agnès Buzyn, qui ne s'en sort pas avec cette crise à l'hôpital, les blouses blanches, toujours très mécontent malgré des annonces.
Alors, 230 services encore en grève.
Peut-être que d'autres vont arriver sans doute demain, hein, et avec notamment, on parle de la fin des fermetures de lits. Ça va dans le bon sens?
Oui, je pense qu'Agnès Buzyn a pris à bras-le-corps l'ensemble de ce dossier qui est extrêmement sensible.
Tardivement, trop tardivement peut-être.
Parfois, les explosions ont lieu lorsqu'on ne les attend pas. Et c'est des ruptures qui deviennent trop fortes et qui font qu'il y a ces expressions. Et la question des urgences est posée en France depuis de nombreuses années. Et je crois que l'ensemble des mesures prises par Agnès Buzyn permettront d'avoir le chemin nécessaire pour alléger les tâches et les difficultés qu'on rencontre dans les urgences.
D'une manière générale, avant de passer effectivement à d'autres sujets sur le volet intérieur, est-ce que, comme le président de la République a l'air de le craindre, vous pensez que la colère est encore là? On a vu que les Gilets jaunes tentent de faire leur entrée. Il y a encore des braises. On parle des urgences, d'autres conflits sociaux. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut repartir ou le grand débat, comme vous dites, a tout calmé?
Mais il ne faut pas anesthésier. Quand c'est une nouvelle méthode, ne veut pas dire la suppression des aspérités. Il faut au contraire que cette nouvelle méthode soit attentive à ce qui peut apparaître pour essayer de régler. Et si on ne peut pas régler, de dire pourquoi on ne règle pas. Je crois que cette nouvelle attention est à l'actif de cet acte 2. Même s'il y aura ici ou là, mais nous sommes un grand pays avec... Des situations parfois conflictuelles, des réformes à faire, une nécessité d'agir pour tenir notre place. Les résultats commencent d'ailleurs à être là. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans. La croissance est toujours au rendez-vous, alors que dans d'autres pays voisins qui étaient jusqu'à présent proposés comme référence, elle est en grosse difficulté. Bon, le chemin est tracé. Le cap est bon, la méthode est nouvelle, mais la méthode est positive.
Une question territoriale. Alors, que vous êtes, Nicolas Barré.
Justement, vous êtes un territorial, vous avez dirigé la Bretagne pendant longtemps. Le durcissement à venir de la réglementation sur les pesticides passe mal en Bretagne et d'ailleurs dans beaucoup d'autres régions. Est-ce qu'on en fait trop au nom de l'écologie? Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette politique volontariste?
C'est pas tout à fait fini. Je pense que vous êtes informé qu'il y a simplement un projet de décret
qui suscite
proposé.
Déjà beaucoup de résistance.
Oui, mais il a ouvert la voie à la discussion. Le projet de décret, il s'inspire des normes de l'Agence de sécurité sanitaire. Bon, si ces normes ne sont pas convenables, il faut le dire, et il y a un moment de débat qui va s'ouvrir là.
Est-ce qu'on pense assez aux agriculteurs dans cette affaire?
Dans le mois qui vient. Donc, c'est à chacun de s'exprimer sur le sujet.
On pense assez aux agriculteurs dans cette affaire, vous pensez?
Je pense que cette question est une question réelle. Le maire... de Langouette qui est en Bretagne, qui l'a posé, a eu raison de le poser. La réponse, elle est proposée là par le ministre de l'Agriculture. Maintenant, il ouvre une discussion sur le sujet avant d'avoir un décret définitif.
De manière générale, le verdissement global de la politique, hein, lié justement aux enjeux climatiques, environnementaux, vous qui avez gouverné la Bretagne en ayant maille à partir avec les écologistes souvent, pensez?
Non, j'ai eu maille à partir avec le Parti Vert. Je distingue profondément le Parti Vert, parfois un parti d'extrême gauche, même s'il essaye maintenant de se redonner une image plus centriste, avec la grande préoccupation écologique qui est au centre aussi de l'acte 2.
Qui est la vôtre.
Et qui, oui, que je partage. Quand je mène le combat sur l'Amazonie, quand je vais au Chili pour discuter avec le président Piñera de la manière d'organiser la COP25, quand je dis dans les propos que j'ai tenus dans l'émission auxquelles vous faites référence que l'écologie par le haut, ça ne marche pas, qu'il faut l'écologie par l'action collective des acteurs sur les territoires, je suis dans cette logique-là.
Vous parlez du recentrage des écologistes. On en est où du pôle gauche au sein du gouvernement, cette formation, ce agir de gauche, comme on l'a appelé, cette arlésienne.
Oui, je trouve qu'elle a été de manière abondante commentée avant même que je ne dise quoi que ce soit.
Donc il n'y a rien. Vous n'organisez rien.
Allez-y. Je pense que, un, il n'est pas d'actualité de créer un agir de gauche au sens de créer une formation politique supplémentaire dans la majorité. Ce n'est pas du tout mon intention. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui, j'en fais partie, des sociodémocrates qui se retrouvent globalement dans l'action du président de la République.
Et plus dans le Parti Socialiste.
Qui ne sont plus dans le Parti Socialiste, on y reviendra si vous voulez, mais qui ne sont pas dans La République En Marche, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas non plus totalement, et puis qui sont un peu en attente d'un lieu de réflexion, de proposition, qui pourra rentrer dans la majorité présidentielle, mais qui nécessite un minimum de concertation. Et je suis là-dedans.
Et ce sera dans ces camps ?
Bon, dans les jours qui viennent.
Et ce pôle gauche, il sera de nature justement à pouvoir contrecarrer ou contredire les avancées, les nouvelles ambitions de votre ancien collègue du gouvernement, Bernard Cazeneuve, qui est venu maintenant dire je vais sauver le Parti Socialiste, je vais renouer avec justement la gauche socialiste.
Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce point. Chacun suit son chemin. Moi, j'ai fait mes choix à un moment où le Parti Socialiste avait fait beaucoup d'erreurs. À mon sens, c'était détruit de l'intérieur, hésitait entre être un parti de gouvernement et un parti de contestation. Je constate d'ailleurs que depuis, il est plutôt devenu un parti de contestation, puisque lorsque l'on dépose une motion de censure en pleine crise des Gilets jaunes, au moment où les Gilets jaunes menacent de l'insurrection, le Parti Socialiste, avec les Insoumis, dépose une motion de censure, je ne suis pas sûr que ce soit le bon chemin pour être un parti de gouvernement. Si d'autres veulent essayer de faire revenir le Parti Socialiste à un concept de parti de gouvernement, eh bien, qu'ils essayent. En ce qui me concerne, j'ai fait mes choix. Je les assume et je ne les regrette pas. Et j'ai fait mes choix en ayant été 44 ans au Parti Socialiste.
Vous êtes toujours socialiste ?
Donc j'ai eu de la durée. Non, je ne suis plus membre du Parti Socialiste. J'ai été 44 ans.
Plus membre, mais vous considérez...
Je suis toujours social-démocrate. Oui, bien sûr. Parce que qu'est-ce que c'est que la social-démocratie ? C'est plusieurs principes auxquels je suis très attaché. C'est à la fois reconnaître l'économie de marché, mais reconnaître que l'économie de marché soit régulée, ce qui nous sépare d'autres. C'est aussi faire en sorte que la justice sociale soit prioritaire, faire en sorte que le projet éducatif soit prioritaire.
C'est assez présent dans le projet Macron, ça.
C'est dans le projet de Macron.
Pourtant, le prix, c'est assez à droite.
Faire en sorte que la dimension européenne soit centrale, faire en sorte que la méthode soit celle du compromis. Voilà des éléments que je retrouve dans la logique du gouvernement.
Vous pensez que vous arrivez à influer, justement, avec
toutes
vos idées ?
Je trouve que l'acte 2 reprend bien tout ça, voyez-vous.
Pour vous, l'acte 2, c'est le tournant social-démocrate ?
Je trouve.
En général, on dit
aussi... C'est pour ça que je m'y sens bien.
Oui.
Et c'est pour ça, à mon sens aussi, que ce que je souhaiterais mettre en place avec d'autres trouvera, je pense, de la substance.
Et
continuer à apporter nos commentaires, nos propositions à l'action gouvernementale.
Jean-Yves Le Drian va suivre avec intérêt tous les dossiers cruciaux, y compris en politique intérieure, que vous portez. À très bientôt, à dimanche.